franceinter.fr.
Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour. Il l'a fait, Martin Fourcade remporte à l'instant la Mastart aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. C'est sa deuxième médaille d'or dans ces Jeux d'hiver. Plus tôt dans la matinée, Alexis Pinturault et le relais masculin du ski de fond avaient apporté deux médailles de bronze à l'équipe de France. La réforme est sur la table à la SNCF, mais le statu quo n'est pas possible. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, dans le journal du dimanche, invite les syndicats à bouger, mais pourrait lâcher du lest vis-à-vis des régions sur les petites lignes. Un nouveau parti souverainiste entre le Front National et les Républicains, les Patriotes de Florian Philippot tiennent aujourd'hui leur congrès fondateur. Dans ce journal également, le crash d'un avion des lignes intérieures en Iran avec 66 personnes à bord. Une lycéenne survivante de la fusillade de Parkland en Floride qui dénonce les liens de Donald Trump avec le lobby des armes à feu. Et puis juste après ce journal, bien sûr, le grand face-à-face de France Inter avec vous, Ali Badou, au programme ce dimanche.
Le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann et puis quel avenir pour l'islam de France, nous ouvre. Ouvrirons le débat avec l'un de ceux que consulte Emmanuel Macron pour imaginer une nouvelle organisation du culte musulman. L'essayiste Hakim El-Karoui sera notre invité.
Merci Ali, à tout à l'heure.
France Inter.
On attendait Martin Fourcade, il a donc été au rendez-vous il y a quelques minutes. Il emporte la médaille d'or de la Mastart d'un cheveu, ou plutôt d'une chaussure. Vanessa Marguez est sa deuxième médaille d'or dans ces JO et Martin Fourcade devient le Français le plus titré de l'histoire des Jeux d'hiver.
Effectivement, mais pour ça on est passé par toutes les émotions. Martin Fourcade était mal parti, il a raté la première cible, il a chuté à la sortie de l'anneau de pénalité, mais il s'est repris sur les skis, il a gagné du temps, zéro faute au deuxième tir, zéro au troisième, et sur le quatrième il a fait une faute, heureusement comme ses deux challengers du moment, les Allemands Schemp et Benedikt Doll. Ça a été hyper serré jusqu'au bout, jusqu'à la photo finish avec Simon Schemp, mais c'est bien lui, Martin Fourcade, le champion olympique devant Simon Schemp, l'Allemand, et devant le Norvégien Emil Svensson, qui est bien revenu dans cette course. C'est fait, vous le disiez, Martin Fourcade entre dans l'histoire. Il dépasse son modèle, Jean-Claude Killy. 4 médailles d'or au total sur les Jeux Olympiques, dont 2 ici sur ces JO de Pyeongchang. Et il reste encore des relais.
Vanessa Marguez à Pyeongchang, une matinée décidément faste dans le camp français, avec aux premières heures du jour la médaille de bronze du relais masculin de ski de fond, 4 fois 10 km, un relais remporté par les Norvégiens, suivi de près des Russes, et donc des Français, Gaillard, Magnifica, Paris et Backscheider. Un beau jour notamment pour Maurice Magnifica, qui avait été déçu cette semaine par sa 5e place aux 15 km.
De toute façon, je m'étais vidé, j'avais plus rien à pleurer, parce que j'étais reparti sur des bonnes bases, et... Donc voilà, et on avait vraiment hâte d'y retourner. On savait qu'on avait notre carte à jouer, on était tous bien, on a tous passé une belle semaine individuellement, on a tous fait notre gros résultat. On était en forme. C'est génial, Jean-Marc, il me lance un relais parfait. Il m'a lancé parfaitement. Et comme on disait, c'est un peu l'ancien temps et le nouveau temps. Voilà, c'est les anciens, la jeunesse. C'est ça un relais aussi, c'est ça qui est beau, c'est cette mixité, ils assurent clairement la relève là.
Le relais français déjà médaillé de bronze à Sochi il y a 4 ans. Et puis un peu plus tôt encore, c'est du ski alpin qu'est venue la bonne nouvelle. La médaille de bronze d'Alexis Pinturault en slalom géant, sa deuxième dans ses JO après l'argent du combiné. Un géant remporté par l'intouchable autrichien Marcel Hirscher, qui lui aussi pourrait égaler le triplé de Jean-Claude Killy en 68. En attendant, le leader de l'équipe de France de ski alpin tient son rôle, Alexis Pinturault, avec Franck Ballanger.
Je dirais pas un bronze qui vaut de l'or, un bronze reste un bronze, mais quoi qu'il en soit, c'est Marcel qui est très fort depuis le début de saison dans cette discipline. Il a montré sa suprématie tout au long de l'hiver, donc c'est sûr qu'encore aujourd'hui il fait un peu course seul en tête, et c'est pour ça qu'il mérite complètement cette médaille d'or. Et puis après, je dirais que derrière on s'est bien battu et on a donné le meilleur de nous-mêmes.
Pinturault qui sera l'un des favoris du slalom jeudi, avec aussi bien sûr et surtout Hirscher. À la SNCF, ce n'est plus possible. Le statu quo n'est pas possible. La ministre des Transports le dit au journal du dimanche. La qualité du service n'est pas au rendez-vous. La dérive des coûts se poursuit. La dette s'alourdit. Nous devons donc agir. Pour Elisabeth Borne, qui recevra les syndicats un à un cette semaine, le rapport Spinetta rendu jeudi a posé un diagnostic sévère, mais malheureusement juste, dont les propositions sont maintenant sur la table en toute transparence, notamment la transformation des deux établissements publics SNCF SNCF en sociétés anonymes et l'abolition progressive des avantages statutaires des cheminots. Au leader de la CGT, Philippe Martinez, qui parle de casse du service public, la ministre répond que c'est exactement l'inverse, que le plus grand danger, ce n'est pas la réforme, mais le statu quo. Quant aux petites lignes qui pourraient être menacées, rien n'est tranché. Pas question manifestement pour le gouvernement de rajouter à la grogne des syndicats la colère des régions, Ariane Grissel.
Tout d'abord, la ministre préfère rectifier l'expression « petite ligne » serait mal choisie. Selon elle, elle préfère parler de lignes essentielles pour le quotidien de ceux qui les empruntent. Elisabeth Borne tient aussi à rappeler que l'État a prévu d'investir 1,5 milliard d'euros dans leur rénovation. Elle l'assure, nos engagements seront tenus. Mais quand même, la ministre ne nie pas qu'il pourrait y avoir du changement. Ça se décidera au cas par cas. Avec les régions, ce ne sera pas défini depuis Paris, mais dans chacune des régions. Sauf que les régions, elles, ont prévenu dès jeudi par la voix de leur association, pas question pour l'État de se défausser de ses responsabilités et de transférer les lignes et leur poids financier au niveau local. L'association Régions de France se dit très préoccupée par ce rapport Spinetta. Elle prévient le transport ferroviaire ne peut se réduire dans une vision parisiano-centrée à du transport de masse à l'image des RER en Ile-de-France.
Demain, les dirigeants de la SNCF seront reçus par le Premier ministre Édouard Philippe. La CGT a déjà appelé à la grève pour le 22 mars. En politique, nouveau parti cherche sa place sur l'échiquier à droite de préférence, sur le créneau des souverainistes, déjà bien encombré. C'est aujourd'hui que le Parti des Patriotes, lancé par l'ancien numéro 2 du Front National, Florian Philippot, tient son congrès fondateur à Arras, dans le Pas-de-Calais. Ses premières apparitions aux législatives partielles du territoire de Belfort et du Val-d'Oise n'ont pas convaincu, ces candidats arrivant loin derrière les candidats du Front National. Mais ce n'est qu'un début pour les patriotes, d'autant plus décidés à se faire connaître, Aurélien Colli.
500 personnes attendues pour ce congrès fondateur à Arras, pas choisi au hasard évidemment. Arras, la ville de Robespierre, pour qui la souveraineté populaire était si essentielle. Arras, ville du Nord aussi avec son passé ouvrier. Idéal pour un Florian Philippot qui résume son mouvement en trois mots, souverainisme et gaullisme social. La matinée était consacrée au vote des statuts, une direction collégiale et pas la verticalité autoritaire du FN pour le citer. Pas de secrétaires départementaux non plus, mais des référents comme un certain Emmanuel Macron. On peut aussi adhérer aux patriotes tout en étant dans un autre parti. Florian Philippot veut un mouvement ouvert, là encore aux antipodes du FN. Côté militant, une majorité vient bien sûr de son ancien parti, comme Samuel, originaire de Valenciennes.
Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont intégré le Front National, justement par rapport à cette sortie de l'Europe. Et vraiment, Marine Le Pen, on a vu qu'elle n'était pas du tout droite dans ses baskets, elle n'était pas sûre d'elle et tout le monde l'a ressorti. Je sais que Florian Philippot, lui, est un peu plus clair au niveau de l'Europe, au niveau de l'euro, et c'est pour ça du coup que je suis ici aujourd'hui.
Cet après-midi, ce sera les discours. Florian Philippot en point d'orgue pour expliquer sa ligne politique et fixer un objectif, le Frexit, la sortie de la France de l'Union Européenne. On entendra d'ailleurs aussi un message de Nigel Farage, le fondateur du parti UKIP, qui s'est battu et qui a obtenu la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union. Arras, Sandrine Malon, Aurélien Colli, France Inter.
En rappelant que la précédente scission du Front National en 98, celle de Bruno Maigret, beaucoup plus importante que celle-ci, avait malgré tout tourné court. Le Front National, en attendant, prépare lui aussi son congrès refondateur des 10 et 11 mars à Lille. Un congrès qui devrait être suivi d'un vote sur le changement de nom du parti, ce que refuse d'avance Jean-Marie Le Pen, le président d'honneur du Front National, dont le titre d'ailleurs devrait être supprimé à l'occasion de ce congrès. Il crie à la trahison, Jean-Marie Marie Le Pen, jugeant qu'un changement de nom serait inacceptable et suspect. Mourir de son travail est insupportable. La CGT réagit ce matin dans un communiqué à l'explosion d'hier à Dieppe, dans une usine de production d'huile. Explosion qui a causé la mort de deux techniciens de maintenance. Le ministre de l'Agriculture, Stéphane Travert, est sur place en ce moment même. La CGT, sans préjuger des causes de cet accident, réaffirme la nécessité de renforcer le rôle et les moyens des CHSCT, les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein des entreprises. Dans le Jura, trois personnes, un couple et un enfant sont morts hier dans la chute d'un avion de tourisme. Il a été retrouvé dans la nuit du côté de Saint-Laurent-des-Roches. L'appareil avait décollé des Yvelines et se rendait à Annemasse. En Iran, c'est un avion de ligne assurant des liaisons intérieures qui s'est écrasé ce matin dans une région montagneuse au sud-ouest du pays. Un ATR de la compagnie Azman Airlines, une soixantaine de personnes à bord. Siavosh Ghazi à Téhéran.
Une vingtaine d'équipes de secours ont été envoyées sur place par la route, mais la région montagneuse a rendu difficiles les opérations. Surtout les conditions météorologiques, notamment la pluie et les chutes de neige, ont empêché le survol de la zone par des hélicoptères pour localiser immédiatement l'appareil et le site de l'accident. L'avion, un ATR qui a plus de 25 ans d'âge, s'est écrasé sur le mont Dena, dans la chaîne montagneuse Zagros, à environ 500 km de Téhéran et 25 km de sa destination. Il avait quitté la capitale iranienne vers 8 heures du matin pour la ville de Yasuj, située dans le sud-ouest du pays. On ignore pour l'instant les causes exactes de l'accident. Après l'accord nucléaire conclu en 2015 avec les grandes puissances qui a permis la levée d'une partie des sanctions internationales, l'Iran a commandé 100 avions Airbus, 80 Boeing, mais aussi des avions ATR pour renouveler sa flotte civile. Les sanctions imposées pendant de nombreuses années par les États-Unis, les Nations Unies et les pays européens avaient en effet empêché l'Iran d'acheter des avions neufs. Depuis un an, l'Iran a reçu 3 Airbus neufs et une demi-douzaine d'appareils ATR. Téhéran Siavoshkazi, RFI pour France Inter.
L'Iran qui serait la plus grosse menace pesant sur le monde, du point de vue en tout cas de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui le dit et le répète, en brandissant ce matin à la conférence de Munich sur la sécurité le fragment d'un drone iranien abattu dans l'espace aérien israélien. Il a redit sa détermination à intervenir directement contre l'Iran si besoin. Honte à vous, aux États-Unis, une lycéenne survivante de la fusillade de Parkland s'en prend à Donald Trump directement et son message fait aussitôt le buzz. Emma Gonzalez était cachée dans l'amphithéâtre mercredi dernier quand Nicolas Cruz a tué 17 personnes dans son lycée de Floride et elle s'en prend publiquement au président américain pour dénoncer ses liens avec la NRA, National Rifle Association, le principal lobby des armes à feu. Son message, repris en chœur par la foule, a tourné en boucle sur toute les télés américaines.
Si le président venait me voir et venait me dire face à face que c'était une terrible tragédie et qu'il continuait à me dire que jamais rien ne sera fait à ce propos, je serais obligée de lui demander poliment combien d'argent il a reçu de la NRA. Mais je le sais, 30 millions de dollars. À tous les politiciens qui ont reçu des dons de la NRA, honte à vous.
Voilà Emma Gonzalez, lycéenne survivante de Parkland. Réponse de Donald Trump hier soir par tweet aux démocrates qui réclament un durcissement de la législation sur les armes. Ils reprochent de ne pas l'avoir fait quand ils avaient la majorité. Quant à cette fusillade de Floride, il se dit triste que le FBI soit passé à côté des informations dont il disposait sur le tueur. Le FBI auquel le président reproche de perdre son temps à essayer de prouver la collusion entre son équipe de campagne et la Russie. En concluant, revenez à l'essentiel et rendez-nous fiers. Allez, c'est une décision qui fera date dans l'histoire du droit à l'environnement. La Cour internationale de justice vient de reconnaître le droit à réparation des dommages causés à la nature par un autre pays, obligeant même ce pays à réparer ou à indemniser Rosalie Lafarge.
Tout part d'une affaire entre le Costa Rica et le Nicaragua. Le second est allé construire des canaux sur les terres du premier.
Et le Nicaragua a arraché environ 300 arbres, détruit 6 hectares d'une zone naturelle humide.
Et pour avoir dégradé l'environnement, le Nicaragua va devoir payer 100 000 euros au Costa Rica. Laurent Néret est professeur de droit à l'université de Versailles, spécialiste en droit de l'environnement.
La décision de la Cour est d'une clarté sans discussion. La Cour reconnaît et dit, c'est la première fois que nous le faisons, qu'aujourd'hui les préjudices à l'environnement, dans des conflits entre deux États, doivent être réparés. C'est un pas historique et il est sûr que, comme ça fait précédent, comme l'on dit, certainement que de plus en plus d'États l'ajouteront à leur demande, alors que jusque-là, ils ne se concentraient pas sur ces questions.
Il y a tout de même une condition de départ, c'est l'existence d'un fait illicite, comme d'aller construire sur les terres du voisin, mais cela reste une grande avancée pour Sébastien Mabil de l'Union internationale pour la conservation de la nature.
On progresse sans aucun doute sur les principes, puisqu'on reconnaît également qu'une zone naturel produit des services environnementaux qui contribuent à la régulation du climat, à la séquestration du carbone, à la fourniture de biens tels que le bois, etc. Et que tout cela a une valeur.
Une valeur qui doit être, selon la Cour internationale de justice, soit réparée, soit indemnisée.
À quand une protection plus sévère également pour les orang-outans? C'est une véritable hécatombe que révèle l'étude publiée par le journal de référence Current Biology, selon lequel la population des orang-outans de Bornéo aurait diminué de moitié en 15 ans. Plus de 100 000 1000 de ces singes qu'on ne trouve qu'à Bornéo et Sumatra ont disparu pour cause de chasse illégale et de déforestation. Un dossier complet à retrouver sur franceinter.fr. On l'a appris il y a quelques minutes, la mort du réalisateur et producteur burkinabé Idrissa Ouédraogo. Il est mort ce matin à Ouagadougou à l'âge de 64 ans, auteur d'une quarantaine de films. Idrissa Ouédraogo avait été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le grand prix du jury à Cannes pour Tilaï. C'était en 1990. Et puis, l'info de la matinée. En sport, c'est bien sûr la médaille d'or de Martin Fourcade, il y a quelques instants dans la masse start du biathlon au JO de Pyeongchang, sa deuxième médaille d'or dans ces Jeux d'hiver. Plus tôt dans la matinée, Pinturo et le relais masculin du ski de fond avaient apporté deux médailles de bronze à l'équipe de France.